I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On the Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Pour cet épisode qui marque les 2 ans du podcast, merci à vous. Je suis ravie de vous proposer le témoignage du comédien et humoriste Tristan Lopin. Ce trentenaire parisien d'origine évoque avec humour et douceur ses premières amours, son romantisme chevillé au corps et au cœur, son rapport à la séduction, mais aussi sa première fois digne d'une comédie amoureuse. À travers notre entretien, Tristan évoque également la complexité des rapports de séduction désormais biaisés par sa notoriété, l'importance d'une sexualité épanouie dans un couple, mais aussi de sa dépendance affective passée qui l'a conduit à écrire son premier spectacle et à ses récentes prises de conscience qui ont engendré son 2e One Man, irréprochable. Anecdote, réflexion, rire, merci à Tristan pour ce moment passé en toute simplicité et intimité. Je vous souhaite une excellente écoute. Épisode, je suis ravie d'avoir en face de moi Tristan Lopin. Merci beaucoup Tristan d'avoir répondu par la positive.
Avec plaisir.
Donc je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités du podcast. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité?
Mon tout premier souvenir lié à la sexualité. Je l'ai passé pour une petite michto. Mais je me souviens que le premier baiser que j'ai donné à un garçon... Mm-hmm. J'avais genre, je sais pas, 6 ans en tout cas.
Okay.
C'était à l'école primaire, sous le toboggan de... Je sais pas, je crois qu'il y avait une espèce de partie de cache-cache. Et j'étais avec un garçon de ma classe qui s'appelait Christophe. Mm-hmm. Comme mon papa, ce qui est un peu gênant. Et en fait, je sais même plus, je me souviens plus comment ça s'est passé ni rien, mais on était cachés sous ce truc-là. Et puis... Enfin voilà, on s'est échangé un espèce de smack, je sais pas trop sous quelle forme.
Un petit piou.
Ouais, comme ça, voilà. Okay. Et bon, il n'y a pas eu de suite, évidemment. On n'a pas été en couple ni rien.
Tu l'as pas présenté à ton père, ouais. Tout va bien.
Non, mais c'est okay. La première fois que ouais, j'ai eu un échange.
Et un garçon, tout de suite un garçon.
Ouais, c'était un garçon, ouais.
Et est-ce que tu as une idée, toi, à cet âge-là, comment tu envisages justement le sentiment amoureux, le rapport amoureux? Ça a été toujours des garçons pour toi, évident?
Ouais, après je suis sorti un peu avec des filles au D'accord. collège. Mm-hmm. Ouais, enfin bon, mais ça a toujours été assez platonique. Enfin bon, si, c'est passé 2-3 trucs, mais bon, rien de foufou. Mais sinon, ouais, ça a été toujours des garçons.
Ce ouais. petit Christophe qui a commencé.
C'est lui, ouais.
Christophe est là, donc ce soir.
T'imagines l'angoisse.
Très marrant. Ok, donc est-ce qu'on parlait de sexualité librement chez toi?
Non, c'est non. pas. Après, mes parents, on en parle maintenant très facilement, finalement, et je leur raconte beaucoup mes histoires de cœur, etc. Mm-hmm. Ils sont souvent les premiers au courant d'ailleurs de quand il se passe quelque chose ou quand quelque chose se termine, ce qui
Surtout.
Est plus triste. Mais à l'époque, non, la sexualité, c'était pas vraiment un sujet, quoi. Après, moi, je viens d'une famille relativement bourgeoise. Mm-hmm. Et puis, moi, ouais, quand j'étais petit, c'était quand même une autre époque, c'était il y a 25 ans. Donc, on n'était pas sur la même liberté de ton qu'il peut y avoir aujourd'hui dans certaines familles, j'imagine, quoi.
Ok. Comment, justement, alors, du coup, tu t'éduques à ça? Il y a donc un peu l'école, j'imagine, éducation sexuelle, mais ça reste quand même très light.
Ouais.
Et comment tu te documentes? Tu as des souvenirs de ça?
Honnêtement, j'ai pas tellement de souvenirs, mais je me souviens surtout en fait d'avoir eu des crushs quoi mm-hmm. sur des garçons, enfin en tout cas ce qui a été le plus marquant pour moi c'était des mm-hmm. garçons et du coup d'apprendre un peu les choses comme ça quoi, mais j'ai pas l'impression que enfin on apprend avec le temps, tu sais, y a pas de truc où on se dit ah j'ai appris telle chose sur la sexualité mm-hmm. et donc ça il faut le savoir, enfin c'est tellement un truc qu'on ressent, je trouve. C'est tellement personnel c'est et tellement intime qu'il n'y a pas de clé, quoi, en dehors des trucs de protection, de prévention, etc. Le sentiment amoureux, la sexualité, non, je l'ai appris sur le tas mm-hmm. avec les garçons.
Donc, tu es un petit garçon, effectivement, donc il fait des bisous à Christophe sous le toboggan. Comment ça se passe, justement, la prépuberté, ton corps, etc. C'est quoi le rapport que tu as, toi, avec ce moment assez clé de l'adolescence?
Ah, c'était pas un moment très agréable parce que moi j'avais. J'ai commencé à avoir de la barbe très tôt.
Ah oui?
Ouais, enfin, genre, je me souviens, je sais pas, ouais, vers 12 ans, je commençais à avoir un peu de la moustache. Je me souviens d'une fois que ma grand-mère qui m'avait dit, ah, il faut que tu la rases, machin. Et moi, je voulais pas la raser parce qu'en fait, à partir du moment où on la rase, ça repousse. Et que j'avais vraiment ce truc, moi, petit, où je voulais absolument garder un peu cette.
Cette enfance?
Cette enfance. C'est vraiment quelque chose que je voulais. Que je voulais garder, et même encore aujourd'hui, c'est une innocence que j'essaie de cultiver un peu. Le corps qui change, etc., je trouve que c'est dur. Mmh. Et surtout, j'imagine pour les filles, il y a aussi les seins qui poussent, les poils aussi. Et je trouve que les poils sur le visage et sur le corps de manière générale, il y a vraiment un truc. On se dit, putain, on est habitué à un corps et d'un coup, il se transforme. Et puis ça vient un peu comme ça, rapidement en fait. Hein. D'un coup, quand le truc se met en route, il y a une espèce de non-retour en arrière possible qui est assez terrifiant. Ouais.
Et effectivement, 12 ans, c'est assez jeune. Donc par rapport à tes copains d'école, tu t'es moqué ou ça se passe plutôt bien?
Ouais, non, c'était pas tellement moqué, mais je me souviens qu'un peu plus tard, je sais pas, vers 14-15 ans, quand j'ai commencé à avoir des poils un peu sur le torse, etc., où j'en ai eu certainement plus tôt et peut-être plus même que d'autres. Des gens qui m'entourent, des copains, des copines, etc. Oui, j'ai souvent eu des réflexions en mode genre « Ah, t'as des poils » ou il y avait un peu ce truc-là. Ouais. Et du coup, à chaque fois, une espèce de culpabilité, je trouve, qui s'instaure en mode alors qu'en fait, on s'en fout.
C'est le corps.
C'est le corps, ouais. Mais aujourd'hui, c'est un truc qu'on libère vachement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression. Ouais, peut-être pas les
gens. Non, je pense que t'as raison. Il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert et là, sur la tolérance des corps différents.
Ouais, plus maintenant. Mais à l'époque, non, moi, je me souviens qu'il y avait un truc un peu là-dessus. Ouais.
Et comment toi, tu le vis dans ton intimité, ce corps qui change? Parce qu'il y a les poils que tu dis, mais ça va avec le lot d'hormones qui change, avec le sexe qui change, etc. T'es un peu. T'arrives à connecter un peu avec tous ces changements ou c'est...
À l'époque, tu veux dire?
Ouais, à l'époque.
Écoute, ouais, non, je crois que ça a été un peu compliqué parce que. Parce qu'on m'avait pas non plus trop prévenu, je crois. Enfin, ouais, il y a un truc un peu naturel qui se fait, mais en même temps, c'est tellement pas naturel dans le discours des autres que du coup, ça peut. Je me suis senti certainement un peu braqué ou un peu brimé par mon propre corps, quoi. Mais au final, j'ai appris à l'accepter, quoi. Mmh. Comme on accepte beaucoup de choses dans la vie qui nous sont imposées.
C'est vrai, c'est vrai. Tu commences effectivement à cette puberté vers 12 ans, donc tu es au collège. Comment ça se passe ce moment un peu qui marque beaucoup? Enfin, là, je le vois avec tous les invités que j'ai eus. C'est vrai que les premiers pas dans la sexualité, sans vouloir faire de généralité, ce qui est vraiment ce que j'essaie vraiment d'éviter de faire, mais marque vraiment le début, l'impulsion de la sexualité. Comment, en tout cas, les premiers flirts vont être faits? Comment les premiers rapports avec le sexe opposé ou pas, en fonction de la sexualité? Mais ça va conditionner, en tout cas, pas mal de choses. Donc, comment toi, t'arrives à évoluer dans tes crushs, dans tes coups de cœur
Les premiers crushs que j'ai eus, je pense que c'était au collège. Je me souviens de deux garçons avec lesquels j'avais un peu flirté. Mais en fait, ce qui est très compliqué, particulièrement pour les personnes homosexuelles, en tout cas à mon époque, c'est que c'était tellement pas quelque chose d'ouvert. Enfin, en tout cas, on n'en parlait pas de manière de façon aussi libre qu'aujourd'hui. Du coup, quand il y avait une espèce de flirt avec un garçon, avant de dire en fait, on est plus qu'en train de flirter, genre on a envie d'être ensemble ou genre.
Sortir ensemble, etc.
Ouais, en fait, c'était pas aussi naturel que un mec et une nana au collège ou au lycée qui s'embrassent et en fait, on est ensemble. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Tu vois, ce genre de truc.
La croix.
Ouais, oui, voilà, la fameuse croix, oui, non. Ouais, quand t'es quand t'as une sexualité comme ça, forcément, c'est moins évident, quoi. C'est moins fluide. Donc, je me souviens que c'était un peu frustrant, quoi. Et puis comme c'était moins accepté par la société de manière générale, la personne en face peut être forcément plus réticente en fait. Hein. Le premier avec lequel il y a eu un truc du coup très naturel et c'est mon premier amour avec lequel que j'ai rencontré quand c'était en première, au tout début de la première, on était dans la même classe et je suis resté 4 ans et demi avec.
D'accord, avec une relation
au-dessus de tous, etc.
Ouais, c'était plutôt. Après, bon, on se roulait pas des patins dans les couloirs du lycée. Mais en tout cas, les gens savaient qu'on était ensemble.
Après, t'as grandi à Paris.
Après, j'ai grandi à Paris.
Ça aide.
Ouais, bien sûr, ça aide. Il y a plein d'endroits, j'imagine, où la question ne serait même pas posée.
Est-ce que, donc, toi, donc, t'as 33 ans, donc, t'as commencé un peu Internet à la maison?
Ouais.
Quand t'étais ado, est-ce que t'as accès au porno à ce moment-là?
Alors non, et puis alors le porno a jamais été vraiment une source d'excitation très intense pour moi, en tout cas. J'ai un imaginaire assez développé, donc le porno c'est pas tellement une...
Ça tombe bien avec le métier que tu fais.
C'est mieux. Alors si j'en ai maté un peu, j'en mate plus depuis quelques années, mais c'est assez récent.
Ok.
Et en fait, souvent, je trouve... Tu sais, il y a toujours... j'ai toujours ce truc quand je regarde un porno que du coup, bah, je me masturbe, quoi. C'est qu'il y a ce truc de... Quand t'as fini, et en fait, que la vidéo continue, il y a toujours ce moment hyper gênant où du coup, je vois des images qui me stimulent plus du tout. Que du coup, je trouve ça hyper too much. Enfin, parce que souvent, les pornos, c'est quand même très, très intense. Et d'un coup, je me dis, mais... ah ouais, genre, mais là, moi, je suis plus du tout dans le mood. Et tout ce qui se passe là, je trouve ça très gênant, en fait. Enfin, je me dis, putain, mais lui, il prend tellement cher. Genre, j'enlève le truc, machin. Ouais,
je comprends. Une petite once de froid dans le dos de...
Waouh, c'est très extrême, quoi.
Donc au collège, t'as ces crushs-là. Tu disais que t'as eu des petites histoires avec des filles.
Ouais.
Donc c'était des histoires, des crushs...
Des filles à qui j'ai un peu roulé des pelles. Et puis après, il y a eu des soirées où il s'est passé un peu plus. Mais j'ai jamais eu d'histoire d'amour avec une fille.
Tu pourrais tomber amoureux d'une femme, tu penses?
Moi, honnêtement, j'ai même, tu vois, pour les mecs, j'ai pas tellement de critères physiques. Enfin, oui, il y a des trucs qui reviennent, très clairement. Je m'en rends bien compte. je sais pas, mais ça fait quelques années que, très clairement, j'ai un truc avec les mecs à lunettes, quoi. Genre, vraiment, là, dernièrement, c'était beaucoup des mecs avec des lunettes. Souvent de la barbe, des mecs bruns avec de la barbe.
T'es bien loti à Paris, du coup, c'est cool.
Ouais, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de connards qui sont comme ça, donc c'est un peu chiant. Mais... non, les filles, je pense qu'on peut tomber amoureux d'une personne. Après, pour moi, la sexualité fait vachement partie du couple et de l'épanouissement personnel. Et dans un couple, moi, je trouve ça hyper important. J'ai pas de désir sexuel pour les filles, quoi. En plus, j'ai énormément de copines. Enfin, c'est vraiment... Mais c'est comme si... Je voyais les filles comme un peu des sœurs, quoi. Toutes mes copines, je les aime d'amour, mais limite, j'aurais l'impression de les salir, en faisant l'amour avec elles, tu vois. Donc, non.
Très bien. Donc, t'es au lycée. Tu rencontres donc ce premier amoureux en première.
Ouais.
C'est une histoire d'amour qui va durer 4 ans, tu dis.
Ouais.
C'est super.
Ouais.
Et donc, c'est avec lui que, j'imagine, sera ta première fois.
C'est... parce que c'était passé un peu des trucs avant, mais je veux dire, en tout cas, ma première fois vraie, c'était avec lui. Ouais.
D'accord. Et comment ça se passe, ce moment-là? C'était comme dans tes rêves? C'était romantique?
C'était c'est très intime. C'est le projet. C'était très romantique, mais c'est un garçon. Que j'ai énormément aimé et qui m'a énormément aimé aussi.
Quand t'en parles, t'as un très grand sourire. Donc vous vous êtes beaucoup aimé.
Ouais, on s'est vraiment. D'ailleurs, il m'a brisé le cœur quand il est parti. Mais je l'aimais énormément, lui aussi. Et donc ça a été beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Enfin, la sexualité. Moi, je me souviens, on faisait l'amour sur du Carla Bruni. Sur le premier album de Carla Bruni. Quelqu'un qui m'a dit. Et tout le reste. Et en vrai, ce qui est rigolo, c'est que c'est un album que j'écoute beaucoup en ce moment. Et quand je l'écoute, tu vois, il y a une espèce de truc d'apaisement, de un peu cocon et tout. Et pour moi, en tout cas, la sexualité avec lui a été vraiment un truc sans tabou. Enfin bon, même si j'imagine qu'à 16 ans, on a un peu des... J'avais pas la sexualité que j'ai aujourd'hui. Mais oui, un truc très rassurant et très dans l'amour, quoi. Genre faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, ce qui est très différent de...
Ce qui est superbe et notamment, alors on va pas encore faire de généralité, mais si je devais faire des stats, les premières fois des jeunes hommes homosexuels sont rarement, voire tu dois être vraiment je les compte sur le doigt d'une main, des hommes qui m'ont parlé une première fois comme ça. Parce que souvent, elle est cachée, bâclée, fait rapidement, pas avec le bon partenaire. Enfin, y a des histoires. Alors, bien sûr, dans les sexualités hétéro aussi, hein. Mais on sent que c'est tellement compliqué aux yeux de la société, etc.
Ouais, bien sûr.
Qu'il y a beaucoup de premières fois qui sont faites pas dans des conditions optimales. Donc, c'est une vraie richesse que tu as eu d'avoir cette sexualité pour commencer, enfin, cette première fois pour commencer ta sexualité.
Ouais, ça a été une. Enfin, après, j'avais eu des trucs un peu avant qui n'avaient pas non plus été de très bons souvenirs et tout. Une première fois que je faisais l'amour, enfin, tu vois, sans que des préliminaires ou que. Enfin, il y avait un espèce de truc complet, de package un peu complet. Et c'était chouette, ouais.
Super. Donc, vous êtes 4 ans ensemble.
Ouais.
Quoi, bah d'ailleurs, on va faire un petit retour en arrière. La première fois que tu te retrouves avec un garçon nu, c'est quoi ? Est-ce que tu arrives à décrire ton premier sentiment ?
La première fois que je me retrouve avec un garçon nu, mon premier sentiment, je sais pas, je dirais comme. Je sais pas, c'est très compliqué parce que c'est comme s'il y avait une espèce d'attente. Mais que c'était pas vraiment ce qu'on a imaginé. En même temps, on n'imagine rien parce qu'on sait pas, en fait. C'est de l'inconnu complet. C'est pas de la frustration, mais c'est comme si on avait tellement attendu ce moment qu'il y a un peu ce truc de dire bah, je sais pas où je vais, je sais pas. Et puis t'observes un corps qui ressemble au tien. Enfin, du coup, dans mon cas, qui ressemble au mien.
C'est ça qui est intéressant. C'est aussi on sait comment ça marche. Mais pas tant, en fait, parce que
en plus, moi, j'ai très vite eu conscience du fait qu'on a beau avoir des corps similaires, les gens ne sont pas excités par les mêmes choses, les corps ne fonctionnent pas de la même manière, quoi. Mm-hmm. Donc, en plus, je trouve qu'il y a vraiment ce côté ne pas prendre pour acquis le fait que la personne en face de toi a le même corps que toi. Mais les zones érogènes, le plaisir de chacun lui appartient, et du coup, ouais,
c'est super que tu aies réussi à comprendre ça tôt.
Bah, parce que je me suis bien rendu compte que les gens pensaient qu'il y avait des trucs qui marchaient alors que moi,
alors,
ça marchait pas.
Pas du tout. Il faut enlever son doigt, monsieur, ouais, ça ne va pas.
Voilà. Là, c'est non. Non, c'est pas comme ça, je crois, hein, vraiment. Parce que c'est censé être agréable, là, ça fonctionne pas.
Ouais, mais c'est juste parce que c'est vrai, quand on est une jeune femme ou un jeune homme et qu'on a le sexe opposé en face de soi, bah là, la découverte, elle est totale. Parce que tu sais, même déjà, tu sais pas trop à quoi ça ressemble. Enfin, tu vois, le sexe.
Ah ouais,
sexe,
puis le corps
plus
des femmes, il a tellement pas été représenté dans les corps de biologie, etc.
Exactement, bien sûr. Et puis, ce que tu vois en plus, enfin, si certains vont regarder du porno pour se documenter, entre guillemets, ouais, les corps des jeunes femmes qui vont retrouver en face d'eux, ça n'a rien à voir. Et puis, les appareils génitaux bougent aussi beaucoup pendant l'excitation, les phases d'excitation, etc.
Ouais.
Donc, tu as cette histoire d'amour, cette belle histoire d'amour qui donc t'amène après bac, du coup.
Ouais, carrément, ouais.
Donc, vous commencez vos études ensemble.
Ouais.
Vous arrivez à faire ce gap de lycée, du cocon, etc.
Ouais, tout à fait.
Et de rentrer. Vous faites les mêmes études ?
Pas du tout. Lui, il était en fac de droit. Okay. Et moi, j'étais en école de ciné.
Ah oui.
Donc, rien à voir.
Deux ambiances, quoi.
Deux ambiances, ouais. Le pragmatisme et le rêveur, quoi.
C'est ça. Et vous arrivez à maintenir votre relation ?
On arrive à maintenir notre relation, ouais, ouais, même si lui, alors, lui était quand même quelqu'un avec un caractère assez imposant,
okay,
un peu chiant, pour être tout à fait honnête, mais il le sait, donc il n'y a pas de problème. Et ouais, même si je pense que la dernière année a été un peu chaotique, quoi. Et puis moi, j'étais tellement dans un truc de dépendance affective. J'en parle dans mon premier spectacle.
Qui est super.
Et que du coup, je voulais absolument pas le laisser partir. Pour moi, j'ai vachement été éduqué dans ce truc de le premier amour, c'est le bon. Et une fois qu'on est avec quelqu'un, en fait, on reste avec, quoi.
C'est intéressant. Bon. Ça vient de ta famille, ça ?
Mes deux grands-parents, enfin, mes quatre grands-parents ont toujours été ensemble. Mes parents ont toujours été ensemble. Enfin, ils ont eu des histoires d'amour avant. Des amourettes, mais.
Le premier amour était.
Mais le premier. Ouais, une fois qu'on se mettait avec quelqu'un, il y avait un truc de. Puis moi, j'étais biberonné au Disney, quoi. Donc, il y avait vraiment ce truc-là. Donc, pour moi, en fait, on pouvait pas se séparer. Et puis, je l'aimais tellement, quoi, que. Ouais, et puis je pense qu'il m'avait libéré d'un truc. J'imaginais pas une seule seconde qu'on puisse se séparer. Alors que finalement, j'étais certainement pas très heureux la dernière année. Mais quand il m'a quitté, ça a été.
Un cataclysme.
Ah là là, vraiment.
Tu te tiens le front, genre.
Ouais, je me tiens le front parce que j'ai été tellement malheureux, quoi. Mm. Ça a été horrible.
Et pourtant, tu fais des études, j'imagine, qui te passionnent.
Ouais.
Et tu rencontres d'autres garçons, d'autres filles, dans un univers en plus artistique, donc avec, on va faire un petit cliché, mais une ouverture d'esprit, ce foisonnement d'idées, etc. T'as pas envie de profiter de ça? T'as pas envie de sortir de...
Après, du coup, je peux sortir. Mais moi, il faut savoir que jusqu'à ce que je sois avec lui, j'étais quand même quelqu'un de pas... J'ai pas beaucoup confiance en moi. Et à l'époque, c'était encore pire. Aujourd'hui, ça va, mais je veux dire, à l'époque, c'était très intense. Hein. Donc moi, si tu veux, c'était quelqu'un de tellement... qui avait tellement d'assurance, tellement de projets, tellement d'ambition, que quelque part, il me portait, en fait, aussi. Mais trop, certainement, parce que finalement, je me suis quand même trouvé quand il a fini par me quitter.
Oui.
Et c'est ce qui m'a rendu service aussi. Mais du coup, pour moi, c'était un vertige, le fait qu'il soit pas là, parce que ce mec-là était tellement...
c'était un vrai repère, en fait.
Fort dans ma tête. Mm-hmm. Il s'est avéré, avec le temps, que je finis pas, je crois, être quelqu'un de plus ambitieux finalement que lui au final, quoi.
C'est beau, c'est une jolie revanche. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on regarde toujours ce qu'on va faire demain, nos agendas, nos plannings, etc. Mais on prend rarement le temps de se poser, de regarder un peu en arrière et de se dire grâce à lui, grâce à elle, grâce à cette amie, grâce à cette rencontre, ouais, qu'elle soit éphémère. Ces gens qui nous croisent dans la vie vont être parfois un tremplin, parfois un miroir, parfois une marche, etc. Ouais. C'est hyper intéressant. Et c'est ce que tu dis, au final, quand tu regardes cette ambition, que t'en parles avec beaucoup quand même, je trouve, d'admiration.
Ouais.
En tout cas, on sent qu'il avait une emprise sur toi. Ouais, sur sûr, la... ouais. Et finalement, c'est intéressant de voir que X années après, t'as dépassé ça, quoi.
Ouais, mais parce qu'il m'a permis de me révéler à moi-même aussi. Ça fait un peu bouquin de développement personnel.
Ouais, mais c'est chouette.
C'est ça, ouais.
C'est enfin, chouette. Vraiment. Tu lui as dit ?
J'ai fait un spectacle.
Ouais, mais est-ce qu'il sait que c'est lui ?
Ah oui, c'est que c'est lui, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le spectacle. D'accord. Qui sont très très précises.
Moi, j'ai vu le spectacle, mais c'est vrai que si tu ne sais pas que c'est lui...
Déjà, je donne la date que je donne dans le spectacle où il m'a quitté, c'est la vraie date.
Ah oui, d'accord.
Alors, après, le spectacle, c'est pas que lui du tout.
Non,
il y a plein de trucs qui sont romancés, et c'est beaucoup de du mec avec lequel je suis resté après.
D'accord.
Encore plus longtemps.
Donc, t'as fait un espèce de...
Donc, j'ai fait un espèce de mix.
Ouais, c'est super,
Pour pas que ça soit... Enfin, voilà, moi, pour me détacher de tout ça. Mais c'est clair qu'il m'a libéré de plein de choses. Ouais.
Donc tu te retrouves donc célibataire, t'es dans tes études, tu es effondré, etc. Comment tu te remets le pied à l'étrier avec les hommes, parce que là t'es tout jeune?
Alors comment je me remets le pied à l'étrier? Moi je suis parti un an après qu'il m'ait quitté, je suis parti à New York.
Ah super.
Je suis parti à New York pendant un an, j'ai fait 3 mois de cours et après j'ai bossé sur des longs métrages. Et en tant que costumier, j'ai bossé pour le magazine Marie Claire,
okay,
au Fashion Closet, genre
wow,
ambiance Sex and the City et tout. Et si tu veux, moi du coup pendant un an à New York, j'ai lâché les...
Ouais.
J'ai tout lâché, quoi.
On y va, le petit Frenchy dans la mode, ouais, etc.
L'accent parfait. Français à New York, ça marche très très bien.
Ah bah c'est une valeur sûre.
Le Frenchy est très à la mode à l'époque.
Oui, les gens veulent savoir.
Voilà, les gens veulent savoir et j'ai fait de jolies démonstrations.
Merci d'avoir porté le savoir-faire français à l'étranger.
Voilà,
merci pour ça.
J'ai planté le drapeau français à New York.
Attends, le pain. Ah super, donc c'est là où voilà, tu as fait des rencontres.
Ouais, en tout cas, j'ai pas, si je sortais avec un mec, un Français, à New York pendant, je sais pas, genre 3 semaines, qui m'a largué par MSN, 2 jours avant qu'il me quitte, j'apprends qu'il est contre l'avortement. Donc déjà, j'étais là genre, waouh,
ah oui.
Genre, je pense que ça va être compliqué, quoi. Et le mec me quitte par MSN, je fais, non, mais c'est pas...
Pas très cool, ouais.
Non, pas très cool.
Donc pendant un an, tu multiplies beaucoup les rencontres, tu sors beaucoup ou c'est...
Je suis sorti beaucoup pendant un an à New York, ouais, je suis sorti beaucoup, j'ai vraiment très peu dormi. Et j'ai multiplié les rencontres, mais c'était plus, j'étais avec mon meilleur ami, on est beaucoup sortis, et moi je faisais surtout, j'avais envie de plaire, quoi. Puis j'avais 22 ans, 23. C'était à 10 ans, j'avais envie de plaire, j'avais envie de... Et puis je savais que j'étais là pour un an, en fait, donc j'étais vraiment dans un truc...
Et t'abandonnes à ce moment-là ce joli, doux rêve de premier amour et de toute la vie, etc. Où tu
cherches... Il est revenu après. Hein. Quand je suis revenu de New York...
Le premier amour est revenu.
Il est revenu à la charge.
Ouais. Ok. Donc tu fais cette année,
ouais,
tu multiplies les rencontres.
Ouais.
Est-ce que t'as la sensation d'avoir un peu trop multiplié les rencontres ou t'es...
Non, okay. Non, parce que j'étais pas...
10 ans après, c'est ok.
Non, c'est carrément ok. Et puis, j'ai vraiment pas couché avec... Enfin, tu vois, c'était... moi, je suis très, très dans le truc de rouler des pelles, en fait. Ah. Ouais, moi, j'adore
parce
ça.
Parce que, à ce micro, souvent, rencontrer des gens.
Ah ouais, non, non.
C'est acter l'acte sexuel. Ah ouais,
non, alors moi, je peux être très, très vanille.
Vanille, quoi.
Ouais. Pas toujours, mais je veux dire, en tout cas, à cette époque-là, c'était vraiment une année où j'ai pas couché avec mes mecs. J'ai beaucoup été dans des bars un peu bourrés, à flirter, à rouler des pelles et après à se dire, ah non, mais moi, je m'en vais, rentre chez moi. Si, je suis rentré avec des mecs, mais pas tant que ça, non. Okay. Pas tant que ça.
Donc, quand tu rentres à Paris, l'amoureux revient.
Et il revient, ouais. Et puis, moi-même, on se remet ensemble, je sais pas, genre une semaine.
Ok.
Et j'étais... enfin, oui, et puis j'avais ce truc de... J'avais tellement attendu qu'il revienne pendant l'an et demi après qu'il m'ait quitté, avant que je parte à New York. Et en fait... Lui-même m'a dit des trucs très très jolis. Il m'a dit, mais ça fait 2 ans que j'attends que ça. Enfin, donc j'étais hyper flatté. Et en fait, je me souviens très bien qu'à un moment donné, je me dis, mais la personne que t'as quittée il y a 2 ans et demi, 2 ans, ouais, en fait, elle m'en voudrait tellement de retourner avec toi là. Et je me souviens très bien, on s'est retrouvé un jour et je lui ai dit, en fait, je suis désolé, mais je peux pas, en fait, parce que j'ai avancé et parce que et tu m'as apporté plein de trucs et tout, mais en fait, moi, j'avais l'impression de trahir la personne que j'étais devenue, en fait. Mmh. Vraiment, j'ai eu cette sensation de dire, j'avais l'impression de marcher en arrière. J'étais là, non, non, c'est pas possible. Genre, j'en ai tellement bavé, ça a été tellement dur.
C'est une grande force de caractère d'être capable de faire ça.
Ouais.
Parce que t'as la facilité, t'as ces bras que tu connais, t'as cette bouche que t'as aimé, enfin ce corps, cette bouche que t'as embrassée, enfin tu vois, il y a tout ce facilité et c'est fort d'avoir réussi à lui dire que tu te trahirais toi si t'y retournais.
Bah oui, mais parce que j'avais tellement appris de choses sur moi grâce à cette rupture, je m'étais tellement affranchi de plein de choses que d'un coup j'ai dit non, j'ai pas le droit de me faire ça, en fait. T'as avancé, c'est dur, mais faut pas lâcher le truc, quoi.
Donc cette histoire se termine totalement.
Cette histoire se termine totalement, ouais.
Ok. Donc là, t'es à Paris, tu reviens. Comment tu commences ta carrière artistique à ce moment-là ?
J'ai commencé, on m'a appelé. En fait, je suis rentré de New York pour bosser sur un long métrage en tant que costumier. Mm-hmm. Un long métrage avec Tara Haim.
Ok.
Et du coup, je démarre dans le ciné en tant que costumier, quoi.
C'était dans ses premiers films, du coup ?
C'était dans ses premiers films, ça s'appelait Les âmes libres.
Ok.
C'était genre, je sais pas, 2 ans après Un prophète. Mm-hmm. Et donc, je fais ce film-là, qui est un film d'époque, pendant 39-45.
Ça va être super.
Ouais, c'était canon, mais du coup, j'enchaîne direct en fait là-dessus, quoi, en rentrant.
Ok, donc, et là, pareil, tu reprends ta vie à Paris ?
Je reprends ma vie à Paris. En fait, je rencontre un garçon hyper rapidement, quoi, avec lequel je suis resté très longtemps.
Donc, très longtemps, c'est combien de temps ?
C'est 7 ans.
Ah ouais, ouais. Grande histoire d'amour.
Grande histoire d'amour. Je l'ai beaucoup quitté. Je suis beaucoup revenu. Il est beaucoup revenu aussi, gentiment. Vraiment, il y en a eu beaucoup. Ça a duré 7 ans et puis finalement ça s'est terminé.
Et pourquoi vous vous quittiez ? C'était quoi les...
Pourquoi on se quittait ? Parce que je pense que fondamentalement on s'aime énormément, mais qu'il y a des gens avec lesquels on sait que ça marchera pas.
Ouais, qui te font pas du bien.
Enfin, en tout cas, qui peuvent te faire du bien, mais avec lesquels tu sais que tu construis pas les choses que t'as envie de construire. En fait, il peut y avoir des gens hyper bien dans notre vie de tous les jours qu'on rencontre, avec lesquels on peut passer des très bons moments, mais avec lesquels on n'a pas forcément les mêmes aspirations, quoi. Et moi, je crois que c'est quelque chose que j'ai senti, mais que j'ai pas osé non plus assumer jusqu'au bout en le quittant et en ne revenant pas. Certainement aussi parce que j'avais très peur de revivre la tristesse que j'avais ressentie avec ma première rupture, quoi.
Et vous vivez ensemble à ce moment-là ?
Non, t'es beaucoup l'un chez l'autre. Bien et tout, sûr. Mais moi, j'avais jamais vécu avec quelqu'un parce que, justement, je me protégeais vachement. Moi, depuis ma première histoire d'amour, j'ai vraiment un truc où je me suis quand même barricadé beaucoup. Mm-hmm. Et donc, non, on n'habitait pas ensemble.
Et le sexe avec lui, ça se passait comment ?
Ça se passait bien.
Ouais.
Ouais, ouais, ça se passait bien. J'ai jamais eu de rapport compliqué au sexe avec les mecs avec lesquels j'étais.
T'as jamais, dans les différentes histoires que t'as eues, il n'y a pas eu des incompréhensions ? Des hommes un peu qui allaient sur un terrain qui n'était pas le tien ou...
Non, pas tellement. Je suis toujours sortie avec des gens qui, en tout cas, au moment de notre relation, étaient des gens d'une grande bienveillance. Moi, je crois que je le suis aussi. Et c'était toujours des relations dans lesquelles on est là pour le plaisir de l'autre. Après, j'imagine qu'en grandissant, il y a eu des sujets qui ont été abordés qui n'étaient pas avant, une sexualité plus débridée, j'imagine aussi, des choses qu'on fait plus avec l'âge qu'on ne faisait pas au
bien
début,
sûr.
Ce qui est normal.
Avec vous, oui, bien sûr.
Mais non, j'ai toujours eu le sexe a toujours été plutôt cool avec...
Donc tu fais partie de ces chanceux qui ont toujours eu des bons amants.
Ouais, alors après, non, des amants d'un soir et tout, j'en ai eu des très mauvais.
Ah, c'est... Là, les gens sont là, genre, ah, quand
ouais,
même.
Non. Non, mais après, moi, je pars du principe que... Évidemment, il y a des moments où les choses pouvaient être frustrantes, où tout n'était pas rose sexuellement et tout. Mais en tout cas, moi, je peux pas rester avec quelqu'un éternellement, ou en tout cas, 7 ans, c'est énorme.
C'est très
4
long,
ans,
hein.
7 ans, même 2 ans, c'est énorme. Sans que la sexualité soit épanouie et qu'elle soit heureuse, quoi. Mm. Non, moi, le sexe fait trop partie de mon épanouissement personnel pour faire une croix dessus.
Donc là, t'es à peu près, enfin, avec ce jeune homme, t'arrives quasiment à ta trentaine.
Ouais.
Est-ce que sur cette décennie parisienne, quand tu reviens de New York, est-ce que tu fréquentes le milieu gay ? Et quel est ton rapport, toi, avec le milieu gay parisien ? Parce que du coup, pas mal de jeunes gens qui viennent de province, c'est un peu le phare dans la nuit quand ils ouais. sortent de province, ils vont tout de suite dans le marais, dans les clubs comme ça, parce que c'est, on leur en a parlé, parce qu'enfin, entre guillemets, la sexualité va être débridée.
Plus libre, plus accepté.
Je pense notamment à Rubin qui a été un épisode extraordinaire, qui est corse, homosexuel. Et son arrivée à Paris, il y va tout de suite au Queen, c'était les années 90. Mmh. Il s'assoit sur les marches et il pleure parce qu'enfin, il voit des gens comme lui. Il aura passé, tu vois, jusqu'à ses 20 ans. Et puis, il a été vraiment le paria de son village. Enfin, c'est vraiment une histoire qui est bouleversante, qui est hyper bien racontée, mais qui est bouleversante de douleur, d'homophobie, etc. Et c'est la première chose qu'il fait quand il arrive. Il va au Queens, il voit plein de jeunes gens qui s'embrassent, qui sont libres, qui sont heureux, qui font la fête, et ils pleurent de joie. Donc toi, c'est quoi ton rapport avec ce milieu-là que tu...
Ouais, moi, je suis né à Paris. Donc déjà, j'ai pas du tout ce truc de... aller à Paris pour découvrir ça. Enfin, du coup, c'était plutôt à portée de main. Que j'ai fait des études de ciné. Donc, si tu veux, après ma première histoire d'amour, quand je voulais sortir voir des mecs, j'avais quand même des potes avec lesquels y aller. Donc, j'ai jamais eu ce truc de « on y est ».
C'est ma communauté. Ça m'est jamais arrivé. Okay.
Non, pas tellement, parce qu'en plus, déjà, j'ai jamais eu besoin de me sentir... Enfin, moi, j'ai toujours eu beaucoup de potes qui ont toujours été très, très ouverts d'esprit là-dessus, avec lesquels on parlait de sexualité. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de potes mecs hétéros, avec lesquels ça n'a jamais été un tabou du tout, quoi. Et que je connais depuis le collège ou le lycée, et que je vois toujours aujourd'hui. Donc, j'avais vraiment un soutien là-dessus. Et si, évidemment, je veux dire, je côtoie, je sors régulièrement dans des endroits gays, etc., parce que j'aime bien danser sur de la musique.
Et que la musique est vraiment meilleure.
Et que la musique est vraiment
charmée. Pas se mentir, bien sûr.
Mais
quand on pouvait sortir.
Quand on pouvait sortir. Bien sûr. Mais c'est pas... je dirais pas que c'est un endroit dans lequel je me sens particulièrement en sécurité. Voilà, je dirais que... moi, j'ai le sentiment, et je sais que c'est pas partagé du tout, mais j'ai le sentiment que c'est un endroit dans lequel moi, j'ai l'impression qu'il y a moins de barrières. Mm-hmm. Parce que moi, je sais que j'ai des potes gays qui s'entendent très bien avec mes potes hétéros et qui sont devenus potes entre eux et que du coup, il y a une espèce de...
Oui, il y a une fluidité.
Ouais,
il y a
des
fluidités. Un
rapport, donc pour
ouais.
moi, c'est des endroits où je sais que tout le monde peut s'entendre, quoi. Pour moi. Alors que je sais que il y a des endroits, il y a des bars hétéros où t'arrives avec des gens gays qui sont plus excentriques ou quoi, tout de suite ça crée
c'est
une espèce
un peu,
de tension qui n'a pas lieu d'être,
bien
mais
sûr.
Parce que les gens d'un coup sont
oui,
froissés
sont
par tant
l'aise,
de liberté de lâcher prise. Donc pour moi c'est un espace que je trouve très cool parce que pour moi ça reste un espace de liberté. C'est pas un espace dans lequel je me reconnais.
Donc on arrive à peu près à la maintenant, à la trentaine, ça commence quand ton spectacle, tu le commences quand ?
Mon spectacle, la première version du spectacle, je l'ai joué le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, donc c'était le 8 janvier 2015.
Ok.
Et le spectacle, en tant que dépendance affective, ça fait 4 ans. Mm-hmm. Ça fait 4 ans.
Et là, tu prépares le prochain spectacle.
Et là, je prépare le prochain spectacle.
Ouais. Là, t'étais à Nice en répétition.
Ouais, prochain spectacle qui s'appelle L'Irréprochable.
Et je n'ai pas de date à donner, malheureusement.
Ben non, on a une grosse tournée qui se remplit bien en plus.
Mais oui, je vois tout, je vois et je te vois tel le roi de la billetterie redonner les dates.
Ben ouais, parce que et parce que j'ai vraiment hâte de jouer ce spectacle-là, quoi. Ouais.
Ok. Et c'est quoi les thèmes de ce prochain spectacle?
Oh là là, c'est pas des
thèmes... Il paraît que j'ai bien aimé ton warning, genre en mode, alors là, n'amenez pas les enfants.
Non.
Parce que déjà, le premier, t'es un peu étonné quand il y a des enfants dans la
ouais,
salle.
Je suis un peu étonné.
Alors quand on dit des enfants, c'est 8, 10, 12 ans.
Ouais, mais c'est pas du tout approprié, quoi.
On est d'accord, moi je l'ai vu, c'est pas tellement approprié. Mais là, tu dis bien celui-ci, les
non,
gars.
Non, là, ça passe pas.
Parce que c'est quoi, alors, le thème?
Parce que c'est beaucoup plus noir, Ouais, c'est beaucoup plus noir, vraiment, c'est plus noir, quoi. Donc, moi, honnêtement, je le trouve très drôle. Et quand j'ai fini d'écrire, je l'ai lu à mon metteur en scène et tout. Et j'étais hyper content d'avoir écrit ça parce que je le trouve drôle et je le trouve intelligent. Et je trouve que. Et j'espère que les gens vont sortir du spectacle en se disant qu'il s'est passé quelque chose, vraiment. Mmh. Et j'aborde pas des sujets anodins, je trouve que. Mais, ouais, c'est noir, quoi.
C'est pas
vraiment...
pour les enfants.
Non, c'est pas pour les enfants.
Pas du tout.
C'est vraiment sur les névroses, sur les.
Mais je pense que comme t'as un truc éminemment sympathique, les gens se disent oh, il est sympa, il a l'air chouette.
Ouais, mais
garçon.
Les gens seront prévenus.
Mais les gens seront, c'est vrai, ouais. Je suis d'accord.
Il s'appelle Irréprochable. Hein, donc c'est...
Oui, c'est vrai. Donc tu commences à monter sur scène réellement, donc 2015, qui commence cette année-là, en tout cas, ce tremplin artistique. Moi, c'était une question que je trouvais intéressante parce que tu es comédien, tu es artiste. Ouais. Il y a une forme de... Les gens te reconnaissent, il y a une forme de célébrité, de notoriété. Comment tu vis aussi ce rapport-là dans ta vie intime? La drague, etc. Tout un ouais. truc autour de la notoriété. Comment et tu le vis, toi?
Honnêtement, c'est marrant parce que c'est... En fait, moi, quand j'étais plus jeune, c'est un truc dont je rêvais un peu, quoi.
D'être désiré comme ça?
Ouais, oui. J'admirais beaucoup les gens qui étaient connus. Je trouve qu'il y avait un truc très énigmatique et très désirable pour leur, à l'égard de ces gens-là. Et en même temps, une fois que c'est arrivé, il y a un petit côté, en fait, moi, je crois que...
Pas tant.
En fait, je crois que je pourrais très bien jouer sur scène mon spectacle, que ça marche, que les gens aiment ça et tout. Et qu'une fois que je suis dehors, les gens me reconnaissent pas. Enfin bon, ça arriverait, peut-être que je dirais, c'est frustrant et tout. Mais je reconnais qu'en tout cas, il y a des moments où les gens sont hyper gentils, genre 75% du temps. Et quand ils viennent me voir, c'est hyper avec beaucoup de bienveillance et il y a toujours un truc... très agréable parce qu'ils sont hyper contents de me voir et que j'ai l'impression de dégager du coup une énergie très positive, donc c'est très agréable. Et en même temps, il y a des gens aussi qui peuvent être très intrusifs, quoi. En fait, je suis en train de me balader et d'un coup, le truc me tombe dessus, mais alors que tu le vois pas arriver, on fait une photo, le portable est déjà sorti, et d'un coup, t'es là, en fait, je suis avec un pote ou mon mec même,
j'ai juste envie
de passer mon dimanche tranquille, quoi. Le pire, c'est les gens qui prennent des photos de toi à ton insu et qui te les envoient sur les réseaux sociaux.
Je t'ai vu.
Ouais, je t'ai vu. Ah ouais. Et ça m'arrive il n'y a pas très longtemps. Et je t'ai vu et je dis, pourquoi en fait faire une photo? Enfin, tu vois, je préfère limite que les gens viennent me voir en me disant, excuse-moi, est-ce qu'on peut faire une photo?
C'est pas la meilleure photo, j'imagine.
Voilà, trois quarts du temps, en plus, la photo, je la fais. Genre, vraiment, il n'y a pas de problème. Sauf ouais. si vraiment, je ne suis pas dans le mood, ce qui peut arriver. Et là, vraiment, j'étais là et la nana me dit, mais c'est parce que... je t'ai vu et je disais à une copine que t'étais là et du coup je voulais lui envoyer la photo et je dis mais en fait c'est ma vie privée, quoi.
Ouais,
et
puis ça doit être assez particulier quand même de qu'on te vole ces petits instants et,
ouais.
et que du coup tu ne saches pas ça t'appartient plus, quoi.
Ouais, et puis en plus c'était un moment vraiment chouette, vraiment pas un moment où j'avais envie qu'on me vole, en fait.
Je comprends.
Bon, voilà.
Et du coup le rapport à ces jeunes hommes qui, alors peut-être aussi des jeunes femmes, mais comment tu le vis ce rapport-là avec les garçons? Est-ce que t'as beaucoup d'hommes qui te séduisent à travers ta notoriété?
Alors, j'imagine que c'est arrivé. Honnêtement, c'est un truc qu'on sent assez rapidement, je trouve. Mm-hmm. Enfin, moi, les fois où je me suis fait draguer par des mecs en soirée, je trouve qu'il y a une énergie qui se dégage de la personne qui est tellement intrusive un peu. Enfin, c'est tellement forceur, entre guillemets, que en fait ça m'est jamais arrivé vraiment. En fait, je suis jamais sorti avec un mec...
Qui était fan,
non. Pas pour finalement m'apercevoir que c'était juste pour être vu avec moi, quoi.
Par exemple, si un homme vient te draguer en soirée, est-ce que toi, tout de suite, tu vas mettre la barrière ou est-ce que tu vas lui laisser le bénéfice du doute?
Non, alors je laisse toujours le bénéfice du doute.
D'accord.
Après, il y a des trucs qui sont rédhibitoires, quoi. Genre, vraiment, enfin... Moi...
J'ai vu tout ce que t'as fait, j'adore ce
que
tu fais.
Ouais, j'adore ce que tu fais. Ça dépend comment c'est fait, mais il y a des mecs qui arrivent, j'adore ce que tu fais, et qui d'un coup te font des... comme phrase d'accroche, te font des clins d'œil sur des trucs que t'as fait sur Instagram ou dans ton spectacle. Et en fait, là, d'un coup, tu fais, ouais, en fait, tu vois, je préfère mille fois quelqu'un, et d'ailleurs, mes derniers instants, c'est plus des mecs qui savaient pas tellement ce que je faisais ou, tu vois, qui avaient déjà vu ma gueule quelque part.
Qui étaient loin de ça, quoi.
Qui étaient loin de ça, que ça intéresse pas, plus que, ouais, non.
T'as jamais voulu essayer de profiter de ça? de cette facilité avec les avec le fait qu'il y ait des garçons, ça, ça pourrait être très facile en tant que comédien.
Non, parce que déjà moi je suis assez fleur bleue quand même. Je suis très dans la romance, j'aime bien j'adore les histoires d'amour en fait, j'adore tomber amoureux. Donc je suis pas trop là-dedans et je l'ai fait deux fois pour être tout à fait honnête.
C'est beau.
Je l'ai fait deux fois, je suis revenu chez moi ou pas chez moi mais avec deux garçons à deux soirs différents qui étaient venus voir mon spectacle. Ouais, c'est, alors franchement, ça pourrait être, bien sûr.
Beaucoup plus facile.
Déjà, moi, tout le monde ne me plaît pas, pour être tout à fait honnête.
Je suis regardant.
Ouais, ouais, un peu, sauf à 6 du mat, comme tout le monde.
Évidemment.
Je suis un peu regardant et surtout, j'aime bien coucher avec des gens avec lesquels j'ai pas le sentiment d'être, tu sais, adulé, entre guillemets, quoi. C'est qu'en fait, le truc de la groupie, en fait, ça m'excite pas parce que moi, j'ai besoin d'avoir l'impression qu'on est un peu d'égal à égal, en fait. Et ouais, que juste on s'est dragué, qu'on se plaît bien. Et
t'as besoin du petit challenge, ouais, de la séduction.
Avoir l'impression, en fait, que le mec, il est là et en fait, il attend que ça. Moi, ça m'excite pas, donc.
T'aimes pas la facilité sur ce point-là?
Non, la facilité, c'est pas un truc qui m'excite. Okay. Non, ce qui m'a valu de tomber sur des mecs pas très recommandables.
Okay. Ok, non, mais c'est hyper intéressant parce que ça, y a aucun jugement, mais ça pourrait facilement, quand t'es célibataire, ça pourrait être, tu vois, ça pourrait être facile. Enfin, personne ne le saurait, ne le jugerait, et pourquoi pas, tu vois.
Ouais, mais franchement, déjà.
Mais après, voilà, si c'est pas ton ça t'excite pas et que toi t'aimes le rapport de séduction avant tout, bah évidemment, oui, ça marche pas.
Ouais, non, et puis déjà, ça se sait pas, franchement, les gens ils parlent grave et je vois déjà, il y a des applications sur lesquelles il y a des gens qui utilisent mes photos. Et après, tu vois, je reçois des messages en mode « Ah, je t'ai vu sur machin », et du coup, tu sais pas ce que les gens racontent, tu vois, il y a certainement des gens qui ont dû avoir des conversations super glauques et super sexuelles avec moi sur des applications, alors que c'est pas moi et c'est pas la photo de mon cul ou la photo de ma bite, machin. Donc, en fait...
on arrive à aujourd'hui, donc dans ta vie globale, on va dire, il y a ce spectacle qui attend,
ouais.
Comme tout le monde...
C'est une grossesse prolongée, quoi.
Ah ouais, franchement, il va falloir la déclencher à un moment donné. T'as ta vie personnelle, intime, amoureuse qui te regarde et qui est son jardin secret.
Ouais.
Qu'est-ce que... Alors, on n'ira pas trop dans le détail et ça s'entend évidemment, mais qu'est-ce qui te plairait de découvrir? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire aujourd'hui? Est-ce que tu es en accord avec cette sexualité? Est-ce qu'il y a des terrains de réflexion que tu as, comme tu as le temps en ce moment, d'y réfléchir?
Je suis en accord avec ma sexualité, même si les circonstances font qu'on est quand même dans un monde très compliqué.
Qui est assez anxiogène, ouais.
Qui est assez anxiogène. Honnêtement, franchement, depuis un an et demi, deux ans, je pense que j'ai gagné en maturité de ouf, quoi. Vraiment, genre l'année dernière, j'ai eu une espèce de grosse déprime, genre vraiment, vraiment pas cool, quoi.
Qui était dû à une histoire d'amour?
Qui était dû, ouais, notamment à deux ruptures amoureuses en l'espace de très peu de temps, qui m'ont mise, et une particulièrement qui m'a mise vraiment...
Ah oui, t'avais fait un post là-dessus où t'avais une année difficile sentimentalement.
Ouais, 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 vraiment, mais en même temps, c'était une histoire qui a pas duré très longtemps en plus, mais...
Très intense.
Ouais, très intense, et finalement qui m'a apporté plein de réponses à des questions que je me posais pas forcément, et qui ont... J'ai eu des réponses qui ont fait un peu mal. Voilà,
un peu dans la douleur, ouais.
Ouais, un peu dans la douleur. Ce qui m'a permis aussi d'écrire le nouveau spectacle, qui parle pas du tout de relations amoureuses, mais qui du coup...
A nourri en tout cas le propos.
Ouais, ouais. En tout cas, je suis même pas sûr que ça soit l'histoire d'amour en elle-même qui m'ait fait tant de mal, c'est toute la réflexion qui s'en est suivie, en fait, autour de moi,
de mes
névroses, ouais, de l'adulte que j'étais devenu, de l'enfant que j'avais été, enfin ça a été un...
Ah oui, donc vraiment une catharsis.
Ouais, ouais. Ouais, ouais, vraiment, j'ai eu 4-5 mois l'année dernière et ça s'est pas du tout vu sur les réseaux derrière,
non,
parce
c'est
que
vrai. Bah,
moi je suis très très bon comédien là-dessus.
C'est ce que c'est... Bah, en tout cas tant mieux.
Voilà.
Mais c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a ce personnage que tu donnes, ouais, et qui est divertissant, on va dire, voilà, ouais, divertissant, drôle, un peu léger, mais pas tant, parce que c'est vrai que tes petites vidéos, même si elles sont prises sur le ton de la rigolade, il y a toujours une petite trame sociétale sociétale
ouais.
qui est très intéressante et des réflexions fort intéressantes. Et en même temps, on rigole bien parce que c'est vraiment drôle.
J'essaie,
ouais. Ah ouais, non, ça, je t'assure. Mais effectivement, oui, ça se voit pas quand t'as des gros downs. Mais en tout cas, tant mieux que t'arrives à prendre cette énergie pour la transformer en création.
Bah, je l'ai transformée au final. Mais si tu veux, moi, il y a eu vraiment 4 mois où j'étais au fond du trou. Mais vraiment, j'avais pas été au fond du trou comme ça depuis. Ma première histoire d'amour, je pense.
Ah ouais,
genre, ah ouais, j'étais vraiment.
T'avais retrouvé
pas bien.
Tes 20 ans, là.
J'avais retrouvé mes 20 ans et puis j'ai commencé à écrire, quoi. Et c'est pour ça que vraiment ce spectacle-là, je le trouve hyper cool parce que c'est un. Enfin, il y a un moment où je me suis dit, si. En tout cas, aujourd'hui, j'allais dire, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment
non,
le truc de l'enfer, c'est
personne
vraiment horrible,
peut dire
personne
ça.
Faut pas
non,
dire ça.
Pas du tout.
Je dis aujourd'hui, je me suis vraiment dit, si t'avais voulu écrire un spectacle, genre celui-là, c'est vraiment celui que
tu garderais.
Ouais, après, ça se trouve, dans 5 ans, j'en écrirai un autre et puis je dirai la même chose. Mais en tout cas,
il est en phase avec toi, quoi.
Ouais, ouais, je fais le point sur des trucs qui sont très intenses et j'espère qu'ils parleront aux gens. Mais ouais, donc j'ai été très très malheureux l'année dernière, vraiment. Mais je crois que ça m'a poussé à écrire un truc que je crois
trop bien.
De qualité.
Et ça t'a fait grandir aussi dans ton approche de ta sexualité, de toi-même, de qui tu es.
Ouais, de ma sexualité et surtout de ma manière de voir les autres.
Ok.
De voir les mecs avec lesquels je pouvais être et de m'attacher, en tout cas, à aujourd'hui, avoir des relations avec des gens qui... On dit toujours qu'il faut sortir avec des gens qui vont bien. Moi, je ne suis pas sûr que les gens qui vont bien existent vraiment. Mais,
comptez-vous, quoi.
Ouais. En tout cas, j'essaie aujourd'hui de fréquenter des gens qui, même s'ils ne vont pas bien, en ont conscience et se donnent les moyens d'aller mieux.
Ça fait toute la diff.
Ce qui fait toute la diff. Ouais, mais parce que moi, si tu veux, j'ai eu vachement tendance à m'occuper des autres.
Le petit syndrome de l'infirmier.
Gros syndrome de l'infirmier, de ouf. Le petit Saint-Bernard, c'est moi. ce qui m'a valu quand même 2-3 revers de médaille un peu compliqués à gérer. Et pas forcément une reconnaissance... Alors après, on fait toujours les choses parce qu'on a envie de les faire et les gens ne nous ont pas demandé de les faire. Hein. Donc je vais pas... Enfin, on fait pas les choses pour être remercié après. Mais il y a 2-3 trucs quand même, moi, qui m'ont mis un peu le seum. Et où vraiment... Et en même temps, ce qui sert de leçon. Hein, où vraiment,
sûr.
Je me suis dit, en fait, j'avais pas été déçu.
Mais
comme
là...
ça. Et en fait, de voir ça, je me suis dit, waouh, genre, en fait, c'est quoi tu dépenses beaucoup d'énergie et peut-être, en fait, tu
oui.
mériterais qu'on en dépense autant pour toi
et
quelque part.
Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi tu dépenses cette énergie et dans quel but, et tu vois, c'est ça, posséder.
Ah ben, c'est tout le truc du moment où je suis pas allé bien, c'est parce que d'un coup, je me suis rendu compte que je m'occupais pas de. C'est ce que j'ai dit dans mon deuxième spectacle,
c'est
d'un coup, j'avais tellement pris de temps à m'occuper des autres, de mecs qui avaient besoin d'être réparés. Que j'avais complètement oublié de penser à moi.
Ouais.
Et quand j'ai vu qu'il fallait faire le tri dans ma tête et que ça fait 33 ans que j'avais attendu pour le faire, je me suis rendu compte que c'était vraiment le bordel, quoi.
Et maintenant, il faut ranger. Allez,
maintenant,
c'est du propre.
Et voilà, j'ai tout rangé dans le nouveau spectacle.
Non, mais c'est ça qui est génial. Mais en même temps, si on ne faisait pas ces erreurs-là et qu'on ne tombe pas et qu'on se fait pas mal, comment veux-tu avancer ? Tu vois, comment être la meilleure version de soi-même après ?
Ouais, mais je trouve que la déception, c'est un truc qui est très difficile à gérer.
Sûrement. Enfin, après, chacun est... Tu vois, il y a des gens qui ne supportent pas l'injustice, d'autres la déception. Enfin, voilà, après, chacun deal avec tu vois, ses cartes. Mais c'est vrai que
ouais.
je peux l'entendre. La déception, surtout quand tu as fourni de l'énergie, du temps, de l'amour, de la bienveillance, et que tu te reprends... T'as un retour de flamme qui est un peu costaud. Ouais, c'est douloureux.
Ouais, c'est douloureux. Après, j'imagine que tout est... On passe à autre chose et, et la déception... Comme le pardon se donne à tout le monde, tu vois. Mais
c'est une bonne question, ça.
De quoi ?
C'est une bonne question. Peut-on tout pardonner ? C'est une vraie bonne question.
Moi, je pense qu'avec le temps, tout se pardonne, ouais.
Le temps et beaucoup de travail aussi. La résilience doit faire partie de la dynamique. Mais oui.
Moi, je suis pour ça, mais...
C'est un taf.
Il y a des trucs... Ouais, ça va prendre... Il y a des trucs qui vont prendre du temps. Ouais.
Est-ce que tu sais aujourd'hui quelle place... tu parlais qu'un couple qui va bien, c'est un couple qui a une sexualité épanouie. Est-ce que tu pourrais, en termes de pourcentage, me donner à la louche la place de la sexualité dans un couple épanoui ?
Pour moi ?
Ouais, bien sûr.
Non, la place de la sexualité dans un couple, pour moi, honnêtement, je pense que ça représente 70%. Parce que si le sexe se passe pas bien, c'est quand même compliqué, quoi.
Ok. Est-ce que les terrains de, on va dire, un peu moins vanille, c'est des choses qui te parlent, qui t'appellent ou pas du tout? Le BDSM ou les couples libres, etc.
Alors, en tout cas, pour ce qui est de l'union libre, moi, c'est pas un truc qui me...
Aussi romantique que toi, ouais, ça me semble compliqué. Ouais.
Non, après, c'est un truc que j'entends complètement. Parce
que tu comprends.
Que je comprends, hein, je veux dire, et de toute façon, je pense que dans un couple, il faut pouvoir se parler de tout et que si la question se pose d'un côté ou de l'autre, il faut que la question soit abordée, évidemment.
Bien sûr.
C'est jamais un truc qui m'a trop traversé l'esprit parce que j'ai souvent été plutôt en phase avec mes partenaires, enfin, en tout cas, avec les mecs avec lesquels je suis resté sexuellement, donc j'ai jamais eu ce besoin d'aller voir ailleurs.
Mais intellectuellement, tu l'entends.
Ouais, je comprends, enfin, je comprends, et puis de toute façon, si ça existe. C'est qu'il faut pouvoir l'entendre aussi. Après, c'est pas quelque chose qui m'excite fondamentalement, mais après, je suis pas resté 20 ans avec la même personne.
Enfin, 7 ans, c'est déjà pas mal.
7 ans, c'est déjà pas mal. Mais je sais pas, peut-être que avec quelqu'un, la question. Pour l'instant, c'est pas un truc qui m'excite.
Bien sûr.
Non.
Bien sûr.
Non.
Et les terrains un peu plus, voilà, on va dire hors cadre du BDSM, du voyeurisme, du tantra, des choses comme ça, c'est. C'est des univers sur lesquels tu t'es déjà penché, pas du tout
Alors, le voyeurisme, le tantra, non. le BDSM, pas tellement non plus. Enfin, non. Après, moi, j'ai une sexualité relativement ouverte, mais...
Oui.
Enfin, ouverte. En fait, je pense que je vais avoir l'air de quelqu'un de très fermé aux yeux de beaucoup de gens.
Non,
mais
non, non.
En tout cas, si mon partenaire a des envies, je suis très, très ouvert au dialogue, etc., il s'est avéré que dans mes histoires passées, les moments où il y a eu des trucs qui étaient moins vanille que d'habitude, c'était plutôt moi qui le suggérais, en
D'accord.
fait. Donc j'ai pas été stimulé dans des en dehors
avec un partenaire
qui m'emmenait plus loin que D'accord. ce que voilà. Et moi je suis un peu contrôle fric, donc il y a moyen que je me mette pas avec des mecs non plus qui me poussent vers ça, c'est possible. Le truc cuir, latex, machin, c'est pas un truc qui m'excite spécialement. Le truc du voyeurisme, pas ouf non plus. Mais après, enfin,
oui.
La vie, j'en sais rien. Enfin,
et puis le contexte, et puis ça peut partir.
Voilà. Avant, moi, j'aimais pas les courgettes. Puis maintenant, j'aime ça. Donc,
on est open, quoi.
Je sais pas. Mais il y a des trucs, a priori, où je me dis non. Et puis bon, écoute, oui, j'en sais rien.
Après, c'est aussi une question de personne, comme tu disais.
Ouais, c'est une question de rencontre, de moments, de...
Mais t'es pas effectivement fermé, tu restes hyper...
En tout cas, je suis jamais dans le jugement
cool.
Des gens qui m'entourent, qui me racontent leurs trucs ou quoi. Je suis jamais dans le jugement. Je suis toujours dans le questionnement de savoir si ça a fait du bien à la personne, si la personne est d'accord avec... Enfin,
okay.
Si elle n'est pas forcée ou si c'est pas dans la contrainte ou machin. Mais moi, tant que tout le monde prend du plaisir et que tout le monde est d'accord...
Qu'on s'entend, tout va bien.
Ouais, bah oui.
Qu'est-ce que tu peux te souhaiter pour ta sexualité future?
Je sais pas, de beaucoup faire l'amour à quelqu'un que j'aime beaucoup.
C'est vrai, c'est très beau.
J'adore.
Non, c'est très joli. Les invités souvent concluent par un mot de la fin. Qu'est-ce que ce sera ton mot de la fin, Tristan?
Mon mot de la fin, ça serait... Mais c'est un truc que je dis depuis très longtemps, mais que je ne me suis manifestement pas appliqué parce que je continue à le ressortir aujourd'hui. Faut pas s'oublier.
Mmh.
Soi. Vraiment, faut pas s'oublier soi. Parce qu'il y a un jour, on se rend compte qu'on s'est un peu zappé. Et ça fait un peu mal au huc.
Merci infiniment,
Avec
Tristan.
Plaisir.
Merci infiniment à Tristan pour sa confiance et à Juliette qui m'a permis d'organiser cet entretien. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi et je vous remercie du fond du cœur. 2 ans déjà de témoignages, d'expériences, d'émotions, de déconstruction. Bref, c'est un voyage merveilleux qui est On The Verge et je ne pensais pas le 14 février 2019... être encore 2 ans après à ce micro. C'est un podcast en tout cas qui vous parle, qui vous bouleverse, qui vous déconstruit, qui vous enchante. Et je tenais à remercier du fond du cœur Émile, Fabien, Mathieu, Pierre, Amen, Mo, William, Olivier, Thibault, Loïc, Mathieu, Anthony, François, Joe, Sam, Vincent, Omar, Manu, Alan, Vincent, Sylvain, Charlie, Rubin, Julien, Max, Erwan, Alban, Théo, Jérôme, Louis, Micha, Benjamin, Maxence, Anto, Max, William, Léo, Kevin, Axel, Fab, Samuel, Martin, Jordi, Tristan et tous les autres amis. Et bien sûr, vous, chers auditeurs et auditrices. À très bientôt pour un nouvel épisode de On the Verge.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.